que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir.
Bonsoir.
Ah ben je pensais que tu allais commencer, c'est pas grave. Bon alors écoute. Alors ce soir on va revenir à des choses beaucoup plus terre à terre que nos brillantes analyses sur la situation géopolitique et internationale, puisque pendant la guerre mondiale la lutte des classes continue. Et on peut, c'est peu dire qu'elle s'intensifie, hein, même certainement. Et puis là, on va faire quand même une émission en relation avec l'actualité, puisque depuis une semaine, il fait beau, donc il y a du monde sur les terrasses des cafés et dans les différentes brasseries. Et donc on va parler de lutte de classe, de travail et d'exploitation avec le témoignage d'une travailleuse de la restauration qui est extrêmement emblématique de la situation des travailleurs et des travailleuses dans ce secteur. En effet, vous le savez, hein, dans l'actualité, dans les journaux, que ça soit sur la radio, à la télé et même dans le papier, hein, ceux qui travaillent, les ouvriers, les ouvrières, les travailleurs et les travailleuses sont souvent les grands absents de cette actualité quotidienne, sont souvent extrêmement invisibilisés selon la formule consacrée. Et puis finalement, le travail, on n'en parle pas tant que ça autour de nous, en famille, entre amis. Les gens parlent peu de leur travail, de la pression, des ordres, des tâches vides de sens, du sentiment d'être inutile, voire même peu capable, de l'épuisement que
ça fait
le travail. Ouais. Des contradictions entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on fait. Finalement, cette question du travail en soi, elle est vachement absente des relations quotidiennes et des relations publiques, alors que c'est le fondement d'une part de notre société, puisque sans travail, il n'y a rien qui tourne, sans travailleurs, il n'y a rien qui tourne. Et puis pour nous, ça occupe une grande partie de notre temps, de notre vie, 8 heures par jour pendant 30, 40, 50 ans. Alors certains d'entre nous font des choix et ont pu avoir une certaine libération par rapport à ce travail, mais toujours est-il que ce qui fait un trait commun de notre classe, de la classe des prolétaires et des travailleurs, qui est la plus nombreuse évidemment, c'est ceux qui sont obligés d'aller travailler, en tous les cas d'aller avoir un salaire pour pouvoir survivre, même pas vivre. Et on peut choisir évidemment de ne pas avoir de salaire, mais alors là on est vraiment dans la survie, on n'a plus beaucoup de choses
d'espace,
à voir.
Ouais.
Alors, ce témoignage, il est issu d'un site qui s'appelle Rupture, hein, qui Rupture Position, pardon, c'est pas pareil, qui a fait la publicité d'un petit collectif que je trouve vachement intéressant, qui s'appelle Le Fur, qui est le front uni de la restauration, qui s'est créé à Nantes dans le 44 et qui a eu des émanations pour le moment à Rennes et à Paris. Et ce front uni de la restauration, ce sont des travailleurs de la restauration, la plupart d'entre eux assez jeunes, hein, moins de 40 ans, qui ont décidé de s'organiser pour s'appuyer d'une part, échanger et si possible essayer de se défendre par rapport au patronat de la restauration. Alors, c'est une structure qui est en parallèle des syndicats, mais qui a choisi de ne pas intégrer forcément le syndicalisme classique, parce que d'une part, c'est un secteur qui est très aride hein, pour le syndicat, les hôtels, cafés, restaurants, c'est vraiment un désert. Il y a des choses similaires au secteur de la viticulture, parce qu'il peut y avoir beaucoup de saisonniers, beaucoup de gens qui viennent, qui décrochent du travail au black, etc. etc. Et puis, quelque part, le syndicalisme, qui est très basé sur le respect de la convention collective, a tendance à évacuer certaines thématiques qui sont extrêmement importantes dans le secteur de la restauration, mais qui ne sont pas forcément... on va dire mainstream ou politiquement correct, ou même dans la culture syndicale classique. Alors, par exemple, pour les filles, dans la restauration, c'est la question du harcèlement, la question du sexisme qui est extrêmement présente, que ça soit avec les clients, hein, d'une part, mais aussi avec les relations hiérarchiques. Il y a la question, comment dire, du recours aux produits stupéfiants, qui est extrêmement importante dans le HCR, dans l'hôtel, café, restauration, pour tenir les cadences, etc. Et puis, il y a la question de, du résultat direct, c'est-à-dire que pour pouvoir obtenir son droit, son dû, évidemment, on peut faire grève, on peut se lancer dans une action prud'homale ou une action en justice, mais ça prend énormément de temps et c'est pas forcément, quand on est aussi sur des petites structures, hein, 3, 4, 5 salariés, ça va pas être forcément le moyen le plus... facile, le plus efficace pour obtenir
quelque chose. Hein.
Voilà, pour gagner quelque chose, surtout que dans ce secteur-là, on a une population qui est précaire, donc ce qu'il faut, c'est de l'argent. Donc il faut de l'argent tout de suite, on n'a pas forcément le temps d'attendre la fin de la procédure. Et donc, on peut avoir tendance à accepter moins pour repartir avec quelque chose. Je vous dis, hein, on a des choses extrêmement en concomitance avec le travail saisonnier dans le maraîchage ou dans la vigne. Et avec ce type de structure comme le FUR, le Front Uni de la Restauration, on peut rentrer dans un rapport de force direct avec l'employeur, avec le patron. On a donc une trentaine de personnes sur Nantes hein, qui peuvent être mobilisables très rapidement et créer un rapport de force différent. Voire même une action directe tout de suite pour essayer de régler le problème et la situation. Et puis enfin, ce front uni de la restauration, il veut aussi créer du lien. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire seulement de la permanence syndicale ou de la permanence de droit, il veut aussi organiser des événements, créer des apéritifs, des moments de rencontre pour pouvoir échanger, pour pouvoir se donner les bons plans et évidemment, on va dire, blacklister les patrons de merde dans la ville pour éventuellement les boycotter. Et puis, simplement, se soutenir les uns les autres, les unes les autres, puisque quand on est sur des bases d'une culture de travail commune, eh ben, on a forcément des choses qu'on peut échanger, qu'on n'échangerait pas forcément avec un syndicaliste qui peut apparaître comme une autorité et parfois on n'a pas forcément envie de tout lui dire. Alors voilà, on va s'écouter ça, ça dure une petite vingtaine de minutes et puis on reviendra dessus, voir si on a des choses à dire. Allons-y en priant pour que ça marche.
Trois entreprises sur quatre ont déclaré en 2022 ne pas réussir à recruter. C'est un secteur qui emploie près d'1 million de personnes en France. Il est omniprésent, indispensable et fait vivre plus de 160 000 entreprises. Pourtant, 200 000 emplois y restent vacants. Alors, pourquoi les candidatures manquent à l'appel ?
Tous les étés, tu vois les restaurateurs qui se plaignent de ne pas trouver de personnel et tout, mais quand tu vois les conditions de travail, personne ne veut... Enfin, les gens ne veulent plus faire ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix de l'Exploitation, le podcast de Position Revue. Moi, c'est Clara et je vous emmène écouter le témoignage d'une femme qui a exercé pendant 5 ans le métier de serveuse. Soyez-en avertis, ce récit évoque des violences sexistes et sexuelles et peut donc être difficile à écouter. Il raconte une entrée précoce dans le monde du travail, puisque cette personne avait 15 ans lorsqu'elle a débuté dans la restauration. Mais alors, que se passe-t-il derrière les cuisines et les salles bondées ? Qu'est-ce que ce métier exige vraiment de celles et ceux qui l'exercent ?
Thank you.
en 2018, quand je commence dans ce restaurant, en fait, j'arrive une semaine avant mes 16 ans. Parce qu'en fait, mon frère avait déjà travaillé là-bas pendant plusieurs saisons. Et je savais aussi qu'ils employaient des mineurs. Et qu'en plus, il n'y avait pas vraiment besoin de s'embarrasser de toute la paperasse. Par exemple, CV, entretien d'embauche et tout, c'était hyper informel. Au début, en fait, j'étais considérée en essai. Pendant les deux premiers mois, j'allais être payée moins que les autres. Donc, ce qui revenait à 8 euros de l'heure. En vrai, pour moi, c'était une montagne de billets à l'époque. Et ça représentait plein de choses. Franchement, c'était le début de l'autonomie par rapport à mes parents, rencontrer des gens et de remplir mon été, quoi. Donc, voilà, moi, au début, je suis super contente. Un dimanche midi, on m'appelle et j'arrive en fait au milieu d'un service bien rempli parce que le dimanche, c'est là où il y a le plus de gens. On me met en fait à un poste très simple au début, hein, donc je dois couper le pain, l'envoyer dans des panières au pass et je dois indiquer au serveur où envoyer les plats. On va dire que j'arrive au milieu d'un chaos organisé où tout le monde a son poste, c'est très réglé, il y a une grande discipline, on va dire, même j'étais pas vraiment là pour découvrir le truc, j'étais presque là en tant que vrai employé dès le premier service. Et après, bon, bah, ça s'est fait assez naturellement, on m'a rappelé et puis c'était parti quoi pour ma première saison là-bas. Quand j'arrive, moi, je suis formée par un étudiant en cuisine. Lui, il est en CAP cuisine, si je dis pas de bêtises. Et donc, lui, il a déjà intégré toute cette hiérarchie qu'on trouve dans la restauration, le respect du chef, comment optimiser tous tes déplacements. Par exemple, tu vas te déplacer en cuisine, tu vas lancer plusieurs tâches en même temps, tu passes près de la plonge, tu vas mettre quelque chose à laver. Voilà, tout est optimisé. Donc, ça, faut l'apprendre quoi, c'est pas inné. Et donc je suis formée par lui et donc moi j'intègre cette discipline qui est omniprésente en cuisine. Donc on est vraiment des petits soldats, on est une brigade quoi et on obéit au chef. Moi le chef il m'a bien dit qu'il cherchait des personnes qui obéissent sans réfléchir. Donc tu réfléchis pas, tu fais tes tâches, et voilà. Mais en fait, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est qu'il se passe en vrai des violences et des folies qui sont pas acceptables, en fait. Moi, j'ai un collègue qui s'est déjà fait pris une petite baffe par le chef. Il se faisait constamment rabaissé par le chef, base d'insultes pour le qualifier. Enfin, c'était vraiment du harcèlement. Et pour le coup, lui, c'est dingue à quel point il était nourri par cet univers de la cuisine, quoi. Il n'a jamais, jamais remis ça en question alors qu'il vivait du harcèlement au travail. Le restaurant, il avait vraiment aucun cadre sur les VSS. Enfin, c'était une ambiance globale qui encourageait les comportements. Si t'es une femme en cuisine, tu vas te prendre toutes les remarques sexistes, toutes les blagues. Je me souviens d'une fois où c'était quelqu'un que je connaissais et tout, qui arrivait en cuisine et genre, au bout de quelques... je sais pas, heure de service, le chef lui fait une blague comme d'hab, genre elle s'accroupit et puis il fait une blague méga sexuelle, gênante et tout. Et en fait, elle rigole pas et elle est hyper gênée et tout. Et ça m'a fait réfléchir de fou, quoi, parce que moi, en fait, j'avais tellement intégré ça, c'était tellement normal pour moi. Et en fait, là, je me suis dit, mais oh, c'est horrible, c'est pas drôle, c'est dégradant, c'est gênant, rien ne va, quoi. Mais même dans l'équipe, quoi, entre nous, entre les jeunes, enfin, moi, je pense une fois à une serveuse, en fait, qui a... Il y a son ex-copain qui est venu manger au resto et il faisait plein de remarques à cette serveuse, limite à la toucher et tout. Horrible pour elle. Et en fait, il y a une des serveuses qui a dit quelque chose au patron qui était là à ce moment-là en mode « Mais là, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut les virer. C'est insupportable. » Même les clients trouvaient ça insupportable. Et en fait, il n'a rien fait. Ces personnes ont continué leur repas sans être dérangées. Et en fait, ça, c'est un truc... qui encourage carrément, quand tu sais qu'il n'y a aucune conséquence, ouais, enfin, genre, même au sein de l'équipe, j'ai déjà entendu des mecs faire des menaces de viol et tout, toujours sur le ton de la blague, mais c'était insupportable, quoi. Ça a gangréné toute l'équipe, Moi, j'allais plus aux fêtes. Enfin, on faisait des soirées, des fois, au camping et tout. Moi, j'y allais plus parce que j'en avais marre. Mais le lendemain, j'allais entendre ce qui s'était passé. Donc, un des collègues bourré qui avait dit à une meuf qu'il allait la violer. Mais moi, on m'a déjà dit ça aussi. Genre, on aurait bien aimé me violer et tout. Enfin, genre des trucs comme ça, hyper violents, quoi. Et toujours sur un ton hyper léger et tout. Et moi, je... Et... Un jour, je suis allée voir les patrons pour leur parler de ça, que je supportais plus les blagues et tout, les remarques. Et en fait, bon, ça a rien arrangé. Ils ont parlé au chef et en fait, du coup, ça a créé un truc bizarre dans l'équipe puisqu'il est venu me parler avec les larmes aux yeux en me disant « mais t'aurais dû m'en parler ». Presque déçu, quoi. Moi, je me suis sentie un peu comme la balance, mais en fait, moi, je me sentais impuissante face à ça. Et le seul truc, on va dire, que j'ai trouvé, c'est d'aller voir après les filles pour qu'on discute ensemble, que si elles avaient besoin, qu'on se serre les coudes et tout. Voilà, quoi, j'étais là. Mais en fait, bon, c'est triste, on peut pas faire grand-chose. Ça part vraiment de la formation des gens. Dès les études, on t'apprend cette hiérarchie. Je veux dire, c'est le chef, mais aussi si t'es une femme, t'es moins capable. Enfin, voilà, c'est un truc qui est beaucoup plus général. C'était pas un problème c'était pas un problème individuel, quoi. Comme ça te prend toute la journée, c'est hyper physique, mais en fait, t'as du mal à redescendre aussi. Donc, je mettais déjà du temps à m'endormir. Et en plus, après, je sais pas, j'étais toujours dans une somnolence où j'entendais le bruit des casseroles ou le chef me gueulait dessus. Enfin, mon esprit était toujours là-dedans, quoi. J'avais trop de mal à décrocher. On m'ajoutait de plus en plus de tâches. On me met à des postes plus compliqués. Par exemple, le snack où souvent, je suis toute seule. Et là, c'est vraiment un poste que moi, j'ai super mal supporté parce que tu es en contact avec les clients. Donc, tu as le stress. Tu as le stress du service et de la cuisine parce que tu fais aussi la cuisine. Donc, c'est les deux combinés. J'ai vraiment mal supporté. Et en plus, avec des horaires de dingue. Tu arrives à 10 heures, toute seule ou tout seul. Tu fais tes préparations et tu as tes frites qui cuisent. Tu dois faire un verre de bière, tu rends la monnaie. Tu as aussi des gens qui viennent se poser, qui viennent prendre un café. Et à partir de midi, tu as vraiment le rush. Donc tout le monde arrive pour manger, pour prendre une glace. Tu es constamment dérangé dans tes tâches et tout. Tu peux pas t'organiser correctement. C'est super dur. Tu es tout le temps dans le jus. Au début, pour moi, c'était vraiment, je le vivais assez bien, hein, comme je l'ai dit. Enfin, c'était un bon plan et tout. Comme ça, j'avais pas à chercher de travail. Ma mère, elle est ouvrière. Mon père, il est chauffeur de bus. Et mes parents sont séparés, donc ma mère a toujours assumé la charge de ses deux enfants, donc moi et mon frère. Et mon père ne versait pas de pension alimentaire, donc pour ma mère, enfin même, on en a parlé après parce que je me disais, mais quand même. Tu t'es pas dit que c'était bizarre tout ça et tout. En fait, si, bien sûr, hein, elle y a pensé, mais enfin, c'était aussi une bonne aide, quoi, financière, moi, pour être carrément autonome. Enfin, après, moi, je me souviens, mes premières années d'études, c'est super, j'ai pas eu après à me soucier trop de l'argent, quoi. J'avais un taf l'été et beaucoup de mis de côté avec mes premières saisons, donc c'était génial, quoi. À tel point que, en fait, j'ai invité même des amis à moi à venir travailler après, comme ça. Enfin, moi, je me souviens, j'avais invité ma meilleure amie à venir travailler avec moi, comme ça on dormait sur le camping et tout.
Ça rentrait tellement dans ton quotidien que...
Ah ouais, mais moi clairement, j'ai mis beaucoup de temps à conscientiser tout ça, à me rendre compte de tout ce qui n'allait pas. Même en fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses en voyant mes amis des fois mal le vivre. Je pense que c'était la dernière année, j'ai invité un ami. Et en fait, lui, il a insisté... pas mal pour avoir un contrat. Et en fait, il a été évincé discrètement, petit à petit, lui disant « on n'a pas trop besoin de toi, en fait, viens pas. Non, aujourd'hui, on n'a pas besoin de toi. » Et tout. Enfin, en fait, presque pour qu'il parte de lui-même, quoi, pour que ce soit pas vraiment eux qui lui disent « ok, viens plus, quoi. » Mais enfin, c'était de manière hyper déguisée. Donc en fait, ouais, si tu embêtais un peu trop les patrons au niveau de tout ce qui est légalité et tout, t'étais évincé, en fait. J'ai mis du temps aussi à comprendre que c'était super avantageux pour eux, le black, toutes les cotisations qu'ils n'ont pas à payer et tout. Moi, je l'ai compris après et tout, mais du coup, je trouve ça fou. Ils n'ont aucun scrupule à vraiment aussi se servir de ta naïveté, du fait que tu ne connaisses pas tes droits. Ça, c'est le dernier de leurs soucis, et même c'est un avantage pour eux, vraiment. La politisation m'a fait comprendre que les rapports d'exploitation en fait, étaient sciemment masqués par les patrons avec des rapports amicaux. Et moi, je disais toujours à mes amis pour rigoler que j'avais une relation toxique à ce restaurant. Genre, tous les ans, je disais « bon là, j'arrête, c'est fini, j'en peux plus » et tout. Et en fait, je revenais tout le temps parce que c'était la facilité, j'avais un poste d'office et tout. Je me souviens, la dernière saison que j'ai faite, mais c'est ridicule, mais j'ai écrit dans mes notes de téléphone, genre, n'y retourne pas, genre, souviens-toi de tout ça, de ce qui s'est passé et tout. Mais bon, oui, j'étais carrément presque enchaînée à ce lieu. Enfin, même, genre, je pense, comme je suis arrivée très jeune, ouais, ils ont mis beaucoup de... Comment dire, bah, moi, ils me le disaient, hein, même dès le début, ah bah, super, tu vas rester longtemps. Et donc, je me suis beaucoup aussi sentie liée à cet endroit. Mais même aux gens, enfin, je veux dire, c'était tous les ans presque les mêmes personnes qui revenaient. Donc, si t'arrêtes, t'as presque l'impression d'abandonner les gens. On m'a carrément fait sentir que j'étais importante dans l'équipe, dans un métier où t'as vraiment peu de reconnaissance. Là, je commençais à en avoir un peu. Donc, je me disais, ah, bon, c'est bien, au moins j'ai ma place. Si je recommence quelque part, bah, j'aurai pas cette place. Donc oui, forcément, tu te dis tout ça et puis tu te dis vite que t'es indispensable, alors qu'en vrai, franchement, t'es carrément remplaçable et t'es pas grand-chose pour eux, quoi. La saison d'après, j'ai décidé du coup de trouver un autre travail. Donc, bon, moi, comme j'étais à l'aise là-dedans, je me suis dit, bah, je vais continuer dans la restauration. Donc, avec un ami, on a trouvé un casino. En fait, ils avaient besoin de serveurs au bar, quoi, parce que c'était aussi. En fait, c'était un bar qui donnait sur la mer et tout, donc très touristique, énormément de gens. Et donc, bah, on se dit, ok, bah, on commence. Et en fait. Tous les serveurs qui notent les meufs qui viennent prendre à boire ou les femmes sur la plage en maillot. Même, je me souviens, mon premier jour, j'arrive, on me dit « Ok, bon bah un des mecs des bureaux qui m'accompagne jusqu'au vestiaire, il monte les vestiaires, il me dit « Bon bah... » Et genre, il reste dans les vestiaires, il me dit « Bon bah vas-y, déshabille-toi. » Là, je me dis « Oh non, c'est pas vrai, genre ça va recommencer, ça va être insupportable et tout. » Et en fait, j'ai arrêté. Là, je me suis dit « Ok, j'arrête. » J'ai fait une semaine, je pense. Je me suis dit, ok, là, c'est pas pour moi. Donc après, j'ai fini par trouver un petit travail dans un restaurant près de chez moi. Et là, c'était un petit resto avec vraiment une petite capacité d'accueil. Enfin, ouais, un petit truc de campagne et tout. Et bah, là, ça s'est plutôt bien passé. Et bah, en fait, maintenant, moi, je fais beaucoup au feeling aussi. Je veux un contrat, par exemple, des trucs comme ça. Même, je me dis, c'est trop con. En fait, j'ai travaillé autant de temps. Même, j'ai cotisé rien du tout. Voilà les risques aussi qu'on prend à pas être protégé, enfin voilà. Moi en fait à la base c'est un travail qui me plaît plutôt bien, hein, je trouve c'est assez sympa, t'es actif, tu vois des gens, même je veux dire il y a un bon potentiel, je veux dire de avec les collègues, comme c'est un travail qui repose beaucoup sur le travail d'équipe, bah je trouve qu'il y a une bonne base de lutte. Je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des choses positives dans ce travail, dans le collectif par exemple, dans l'équipe. Tu peux obtenir des choses si en fait l'équipe se met ensemble. Tous les étés, tu vois les restaurateurs qui se plaignent de pas trouver de personnel et tout, mais quand tu vois les conditions de travail, personne ne veut, enfin les gens ne veulent plus faire ça. Et ça, il faut se servir de ça en fait. Ils ont besoin de gens et donc il y a une marge de manœuvre et ensemble, l'équipe peut obtenir des choses, je pense.
Un immense merci à notre interlocutrice pour son témoignage. Derrière le service, derrière le rythme, il y a une injonction constante. Tenir, obéir, encaisser. Vous l'avez entendu, le dévouement de soi devient une norme. Et avec lui, des formes de harcèlement quotidien qui finissent par brouiller les repères jusqu'à atteindre l'estime de soi. Dans un secteur où l'urgence du chiffre prime souvent sur le respect du droit, les violences ne sont pas des accidents. Elles s'inscrivent dans un système et elles laissent des traces durables. Face à ces réalités, des formes de résistance existent, dans lesquelles le collectif joue un rôle central. Dans les structures plus importantes, il y a les syndicats, comme la CGT Hôtellerie-Restauration. Et dans les très petites entreprises, d'autres dynamiques émergent. C'est le cas du collectif Mise en Place, né à l'été 2024. D'abord organisé sur les réseaux sociaux, il rassemble aujourd'hui des travailleuses et travailleurs à Paris, Rennes, Marseille ou encore Nantes. Ce qu'il dénonce, des conditions de travail dégradées et une culture du dévouement de soi profondément ancrée dans le secteur. Et ses revendications sont la lutte pour la régularisation des travailleurs sans papiers et sans conditions, le respect du droit des travailleurs et des conventions collectives, et enfin, à terme, améliorer cette convention collective. L'enjeu pour le collectif, c'est de continuer à rendre visibles les luttes existantes dans le secteur de la restauration et de la cuisine.
Another day. No fun for my baby. No fun. No fun for my baby. No fun. No fun to be alone. Walking by my. Nobody else. Well, maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on. 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 Well, come on, for no fun to be alone. For no fun to be alone. For hang on, for don't you let me go. For no fun.
Alors, tu vois, ce témoignage, il n'est pas forcément sur des trucs extrêmement statutaires ou, comment dire, très particulièrement des revendications salariales ou sociales.
C'est le quotidien du
voilà, c'est ça. Et il décrit véritablement... ce qu'on peut résumer en deux mots, hein, l'aliénation et l'exploitation, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on accumule, tout notre rapport justement à notre fonction de travailleur et ce qui fait que, on va dire, on va au boulot en étant, mais alors, à reculons, mais en développant une vraie souffrance. Dans ce que est l'espace qui nous permet d'avoir de l'argent pour pouvoir le dépenser. Et ça, c'est quand même un trait qui, de mon point de vue, est en augmentation, en intensification depuis ces 10 ou 15 dernières années. C'est vraiment quelque chose qui a grossi de plus en plus, à tel point... qu'on a eu ces phénomènes de burn-out hein, qui ont été dit. Alors il y a eu des cas qui ont été extrêmement médiatisés, voire parfois sciemment organisés, comme par exemple la vague de pression managériale chez Orange hein, qui a abouti à des suicides. On a eu aussi toute la dégradation du travail dans le secteur des eaux aux forêts, dans l'Office national des forêts, où on a eu énormément de gens qui ont... atteint à leur jour. Et puis, d'une manière générale, rappelons-le toujours, la France est, rapportée au nombre d'habitants, hein, bien sûr, le pays qui, à la fois, consomme le plus de psychotropes, donc shit, drogue, alcool, etc., etc., mais aussi le plus d'anxiolytiques. Donc, il y a vraiment cette nécessité de tenir et ce fait d'avoir une norme sociale qui abîme et qui perd de sens. Alors, ces témoignages, hein, cette manière de témoigner, c'est d'abord la première étape vers la conscientisation et la prise de conscience. Hein, et ensuite, après, comme c'est assez bien dit, comme l'exploitation, elle est collective, et ben, effectivement, la lutte, elle doit être aussi collective. Et je crois que c'est peut-être à l'aune de la fin du deuxième mandat Macron... une marque qui aura été très importante au cours de ces 10 dernières années, alors même 12 dernières années, puisque Macron est arrivé sur la scène politico-publique en 2015. Et c'est vraiment une des marques, je crois, de ce qu'on a pu, à tort, appeler le macronisme, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est ce corps de doctrine, hein, ce n'est pas un dogme, mais en tous les cas, la dégradation vraiment particulière de nos conditions de vie. Un autre élément, je crois, qui est extrêmement symbolique de ça, qui témoigne énormément de ça et qui, quelque part, rejoindra ce qu'on était en train de dire. Une des premières mesures de Macron en tant que ministre de l'économie, hein, ça a été la libéralisation des transports routiers et des transports de cars, avec l'ouverture à la concurrence des liaisons intercités et des liaisons interrégionales pour le service des bus. Alors, c'était déjà quelque chose, non pas qui était ouvert à la concurrence, mais c'était une délégation de services publics, donc il y avait un certain nombre de choses à respecter. Et je crois qu'on a vu en 15 ans véritablement, en 15 ans, l'explosion de quelque chose qui est aujourd'hui mesurable et tout à fait, témoin de la dégradation du travail et de l'augmentation de l'exploitation avec le statut de chauffeur de bus qui a vraiment été à la fois transformé dans sa fonction, dans son statut, dans son rapport aussi au service et d'une manière générale à ce que ça interroge nous qui sommes consommateurs de ces services, à notre nécessité de nous déplacer et à la question de la mobilité. Alors, je vous parle de ça parce que on a appris il y a quelques jours que la fin de BlaBlaCar bus, donc de BlaBlaBus, donc de Ouibus, pour ceux qui se rappellent de ça, était annoncée pour la fin de l'année. Et je crois que là, on a bien, vraiment bien l'illusion du baratin néolibéral, l'inefficacité d'une politique publique et puis l'impact réel de ce que ces politiques elles créent sur nos vies réelles et matérielles. Donc en fait, avec l'arrêt annoncé des liaisons longue distance en autocar, le marché créé par la loi Macron donc de 2015 est désormais entièrement sous monopole privé. Et donc, on a là véritablement un excellent exemple des effets délétères de la concurrence et puis de la libéralisation de ce qu'on appelle les services publics. Donc, cette annonce de BlaBlaCarbus, de BlaBlaBus, je vais utiliser BlaBlaBus, ça sera plus simple, ça dira beaucoup de choses à nos auditeurs. A été annoncée le 21 avril, la plateforme de covoiturage BlaBlaCar, rappelons-le, qui a été racheté par la SNCF, a un peu choqué le secteur lorsqu'elle a affirmé, la plateforme, vouloir cesser son service de transport en autocar, puisque, en fait, il y a deux acteurs hein, sur le marché, donc il y avait BlaBlaBus, et puis Flixbus, qui est allemand. Et c'est un secteur qui en fait est extrêmement organisé, enfin principalement organisé autour de la sous-traitance, puisque en fait BlaBlaBus et même Flixbus n'ont pas d'employés. Eux, ce qu'ils vont gérer, c'est la plateforme, la mise en relation, la gestion de l'encaissement, etc. Et ils vont avoir comme employés des auto-entrepreneurs, avec même parfois avec la mise à disposition parfois du matériel, hein, le bus, ou même parfois des compagnies de bus qui vont vendre leurs services. Hein. C'est en cela que vous pouvez apercevoir parfois juste des autocollants ou des plaques sur des bus qui sont pas verts ou qui sont pas bleus. Alors, dans le cadre du transport par autocar, les gains de productivité sont super réduits. Ils reposent principalement sur l'augmentation de la capacité des autobus et puis évidemment sur la faible rémunération et le faible coût. Ça, c'est dans un contexte de coût fixe stable, ce qui évidemment aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Parce que, vous le voyez, hein, y a énormément de variations sur le prix du carburant, donc il n'y a pas du tout de prévisibilité, et donc il n'y a pas possibilité pour des structures qui gèrent comme ça à l'euro près la possibilité de continuer sur marché. Alors, si le taux de remplissage est stable, remplissage des bus, hein, évidemment, le marché, lui, est proche de la surcapacité, alors que les deux acteurs, hein, Flixbus et BlaBlaBus, ne sont pas rentables. Alors, quand on a un marché comme ça, en économie, on a deux ou trois réponses possibles. La première, c'est de réduire les coûts fixes en faisant pression sur les salaires et les conditions de travail. Réduire la capacité en supprimant des lignes, en réduisant les bus en circulation pour privilégier ceux qui sont les plus possibles. Et puis enfin, augmenter les prix. Telle situation comme ça, ça rend un duopole, contraire du monopole, hein, complètement intable. L'acteur secondaire du marché, BlaBlaCarbus, n'a en réalité aucune perspective de devenir rentable. S'il abandonne des lignes et relève ses prix, il risque d'augmenter sa marginalisation sur le marché et de voir ses taux de remplissage encore reculer, donc peu de rentrée d'argent, creusement du déficit, etc. D'autant plus qu'il y a un doublon, puisque en fait, une partie de la rentrée d'argent de ces compagnies se fait aussi par la gestion et le traitement des données, ce qu'on appelle le data broking. Aujourd'hui, les données que vous publiez sur les réseaux sociaux, que vous émettez avec vos téléphones, etc., etc., puisqu'on est aussi sur des services qui sont immatériels. C'est le service qui est matériel, mais la relation client, elle se fait de manière immatérielle. Elle génère énormément d'informations et donc de données, ce qu'on dit de data. Et ces data, votre nom, vos voyages, votre banque, vos goûts, les questions auxquelles vous pouvez répondre, etc., etc., elles sont des sources de spéculation pour les data brokers, donc les marchands de données qui vont les revendre, les traiter, les organiser, etc. Donc c'est aussi un des intérêts de ces compagnies. Et puis, il y a également, dans ces deux acteurs, Flixbus et Blablabus, une grosse différence d'antériorité, puisque Flixbus, comme je vous l'ai dit, est allemand, et Flixbus a la quasi-totalité du marché quasi-monopole en Allemagne, et en plus, en Allemagne, il y a une antériorité, donc il y a une certaine habitude et il y a une maîtrise du marché allemand qui permet de compenser les pertes et la moindre ressource du marché français. Donc le retrait de Blablabus va permettre à Flixbus d'être en situation de monopole sur le marché, ce qui donc va accentuer les conditions pour les travailleurs, puisque quand on a un seul interlocuteur, on est obligé d'accepter les conditions que celui-ci donne, quoi, hein. Donc il est évident que les sous-traitants vont accepter les conditions plus sévères que Flixbus ne manquera pas d'exiger. Il y aura naturellement de la casse sociale et économique, beaucoup vont faire faillite. En d'autres termes, Flixbus va pouvoir transférer encore plus fortement son problème de rentabilité à ses sous-traitants, puisque c'est aussi une des données économiques aujourd'hui de l'organisation de la production dans le capitalisme contemporain, c'est multiplier la sous-traitance pour pouvoir transférer sur ces sous-traitants par la mise en concurrence, par l'existence de normes ou de demandes spécifiques, la question du coût et donc de la construction, on appelle ça en économie, de la plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le sous-traitant qui va construire les données de la plus-value en faisant baisser le coût du travail, en créant cette différence entre le coût et la rentabilité, et on va dire le donneur d'ordre qui lui va empocher la plus-value. Cette plus-value qui, évidemment, comme il y a cette division du travail, cette chaîne de valeur qui est morcelée, va revenir spécifiquement à lui et va surtout aujourd'hui, dans l'organisation du capitalisme contemporain, être transféré aux actionnaires au détriment du salaire, puisqu'il n'y en a plus, mais aussi de l'investissement. Alors, on a déjà eu cette affaire cette évolution dans d'autres pays. Donc, c'est pas une surprise et je m'appuie sur ça sur une étude excellente pour ceux qui peuvent lire l'anglais, que dans une revue qui s'appelle Research in Transportation Economics. Donc, c'est vraiment la grosse revue anglaise toute la question de la logistique, des transports de personnes, mais aussi de marchandises. C'est vraiment super intéressant parce que ça développe plein de choses qu'on ressent, qui sont là, pour le coup, vraiment dépliées par des chercheurs en économie qui permettent de comprendre plein de choses. Et cette étude, parue en 2022, elle s'est concentrée sur la libération du transport par autocar au Royaume-Uni, avec un phénomène qu'on appelle de consolidation, c'est-à-dire que cette étude va démontrer que la rente et le monopole deviennent les seuls moyens de parvenir aujourd'hui dans le capitalisme contemporain à la rentabilité. Donc, cette libéralisation, elle a été créée, elle a été effectuée en 1988. L'ancien monopole public National Express, NE, s'est vu privatisé et tous les petits acteurs ont été rachetés par National Express. Ou alors, ils ont crevé par manque de rentabilité. On est passé de 45 opérateurs de bus en 1980 à 3 dans les années 2000. Et le marché s'est stabilisé autour d'une domination aux deux tiers du marché par National Express au début des années 2020. Alors, la différence, c'est que En Angleterre, le train, c'est encore plus cher qu'en France. C'est vraiment démentiel. Les infrastructures sont déplorables. Donc, non seulement c'est cher, et en plus, c'est de la merde. Donc, après 35 ans de privatisation, les gens massivement se mettent sur le bus. Et en plus, il y a assez peu de lignes. Donc, le service en Angleterre est beaucoup plus attractif et moins sensible au prix bas que dans l'Hexagone. L'usage de l'autocar est vraiment ancré dans la culture locale et il existe des niches encore assez rentables, quasi inconnues en France. Ce qu'on a vu, quoi, c'est que monopolisation, cette destruction, en fait, elle a créé une augmentation du prix. Puisque les acteurs étant devenus majoritaires, on l'a dit, hein, 2/3 du transport est géré par 2 opérateurs. Donc, tu n'as pas le choix. Hein, tu ne peux pas le faire autrement. Il n'y a pas d'autres offres. Donc, tu fais avec ce qu'on te donne. Une dégradation des conditions de travail, puisque la rentabilité doit être élevée et continuer à gagner. Et quelque part, un déni total des besoins de services publics et évidemment de la question écologique et de l'environnement, puisque le bus, c'est vraiment pas le pied pour la nature en termes de rejet. Donc finalement, si je passe par ce biais anglais, c'est qu'on avait tout de suite la possibilité de voir ce qui se passait et il n'y aurait que, on va dire, les naïfs qui pourraient comprendre et être étonnés de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je voulais citer cet exemple parce que, pour ceux qui ont eu l'habitude de prendre le bus, on le voit bien, c'est pas du tout pour le déprécier, hein, mais aller prendre le bus à 4h du matin au fin fond de la gare Champagne-Ardenne TGV pour bénéficier du tarif le moins cher, tomber sur un chauffeur albanais, certes très sympathique au demeurant, mais qui ne comprend absolument pas ce qui se passe, ni ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui explique, se retrouver à la gare routière de Paris-Bercy, qui est véritablement la tour de Babel, et Babylone, où on voit ces gens descendent de leur bus, on a l'impression qu'ils ont fait la guerre, quoi, parce que ça a l'air vraiment difficile. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ces zones où il n'y a pas de droit pour les travailleurs, il y a encore des espaces où il n'y a pas de droit non plus tout court. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème, vous pouvez fumer ce que vous voulez. C'est vraiment un espace vraiment très particulier pour ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion de traiter la gare routière de Paris-Bercy. Ça vaut le coup de se déplacer pour voir à quoi ressemble véritablement nos sociétés contemporaines. Et donc, je trouvais que c'était vachement intéressant de parler de ça, parce que là, on a vraiment 15 ans de macronisme, un bloc où on voit de quoi on est parti, de quoi on est arrivé, qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que ça donne. Alors, on avait eu la même chose dans les services postaux, hein, avec toute la dégradation, avec les acteurs privés comme Adrexo, etc., la gestion du colis, la gestion de la livraison. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'emblématique, parce que au-delà de la destruction du service public, de la destruction des conditions de travail, on a eu aussi tout le baratin sur l'auto-entreprise, sur la libéralisation et sur le fameux usage du Mozart de la finance qui, pour le coup, permet de juger sur pièce la réalité d'une politique, avec évidemment sa réussite, aucune, et son échec total. Enfin, quoique total, ça dépend pour qui, puisque la conclusion est la même. Il y a un petit nombre de gens qui ont globalement extrêmement bien bénéficié ces choses-là. Ça s'appelle les bourgeois et les capitalistes, mais ça, si vous êtes comme habitué de l'Égrégore, vous ne devez pas être très étonné. Voilà. Alors, on va pas reprendre notre respiration puisqu'il nous reste 10 minutes. Je vais te laisser la parole, à moins que tu aies des remarques à me soumettre devant mon exposé un peu brinque-ballant, mais qui, je l'espère, a été assez clair.
Très bien, très clair. Par contre, moi, j'ai un truc à vous dire, mais c'est pas du tout du même domaine, puisqu'il s'agit de le fichage qui existe en France d'une manière absolument démentielle, hein, de plus en plus. Et je crois que par rapport, la Chine fait mieux. C'est sûr que la Chine fait mieux. Les États-Unis peut-être, les pays comme la Russie peut-être aussi. Enfin, peut-être, c'est sûr. Mais nous, ça devient complètement incroyable, quoi, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau des trucs où il y a 17 millions de fiches, etc. Alors là, par contre, il y a peut-être un espoir, hein, pour lutter en France contre le fichage. Alors, ça, c'est parti d'une personne qui s'est fait arrêter lors d'une action d'extinction et rébellion sur les Champs-Élysées à Paris lors d'une manifestation non déclarée. Elle s'est fait arrêter, cette personne, et on lui a proposé qu'elle donne son code de téléphone. Il a refusé. La personne a refusé. Ensuite, on lui a proposé une prise signalétique, c'est-à-dire les empreintes, afin d'alimenter des fichiers de police. Elle a refusé aussi. Alors tout ça, cette pratique-là, est prévue par l'article 55.1 du Code de procédure pénale, hein, qui vise à collecter les empreintes digitales et la photo du visage d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Alors les empreintes sont ensuite conservé dans le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED. La photo, elle atterrit dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, le TAJ. Le fichier TAJ constitue ensuite le fondement juridique très contestable pour identifier les personnes par reconnaissance faciale. Alors que j'explique un peu, dans le TAJ, il y a 9 millions de gens qui vivent en France qui ont leur photo. C'est un fichier, mais faut savoir aussi qu'il fut un temps où ce fichier était disons raisonnable, en ce sens que fallait, pour y avoir accès, la police devait justifier le fait qu'elle ait besoin de ce fichier. Maintenant, non. Tous les policiers ont un espèce de smartphone, un téléphone, qui est directement branché sur le TAJ, où effectivement, ils peuvent faire de la reconnaissance faciale à tout moment. Sauf que c'est complètement illégal. Ça commence à savoir que c'est illégal. Le ministre de l'Intérieur, actuellement, il est un peu emmerdé par rapport à cette affaire. C'est pas fini, on va en reparler bien souvent, longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, comme en France, dire non à une telle collecte de données constitue un délit, peu importe que les faits initiaux pour lesquels la personne est arrêtée aboutissent ou non à une condamnation, c'est ce qu'on appelle un délit autonome. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un délit de participer à une manifestation interdite. En fait, vous vous retrouvez après avec un délit d'avoir refusé de donner vos empreintes digitales et de donner aussi, surtout, votre photo. Enfin, d'avoir refusé la prise de photo. Alors, l'affaire en question, la procédure a continué et cette personne avait un avocat qui a décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle analyse si ce système de fichage prévu par la loi française, hein, respecte les droits et libertés protégés par la Charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée au niveau européen. La Cour, finalement, a répondu dans un arrêt qui s'appelle Condribus, qui a été pris le 19 mars dernier, c'est très récent. Et quand on regarde ce que dit la Cour, ça constitue une condamnation cinglante pour la France. Premièrement, les prises de photographies et d'empreintes constituent des traitements de données biométriques, qui sont des données sensibles selon le droit européen. Ce type de traitement, donc, est interdit par principe, et ce n'est qu'en cas de nécessité absolue, qu'un tel traitement peut être mis en œuvre. Cette notion de nécessité absolue est très utile et protectrice, car elle signifie que la collecte d'empreintes et de photos ne peut jamais être systématique. Par conséquent, le traitement de données biométriques ne peut pas être forcément permis que dans un nombre limité de cas. L'analyse de la Cour appelle donc à conclure que le cadre français de prise d'empreintes et de photos est contraire au droit de l'Union européenne, car il ne permet pas de respecter l'exigence de nécessité absolue. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, la Cour de justice de l'Union européenne s'est penchée sur la manière dont le droit français impose ou non aux policiers de justifier leur choix de collecter les empreintes et la photographie. Elle exige qu'une explication claire soit fournie à la personne concernée, même de façon succincte, pour notamment lui permettre d'exercer son droit au recours. Elle ajoute que ce n'est pas parce qu'un juge peut ensuite se prononcer sur la légalité de la collecte que cela exonère la police de toute explication auprès de la personne. Alors, je crois que là-dessus, vous serez d'accord. Les policiers en question n'expliquent jamais pourquoi ils prennent les empreintes et la photo quand une personne est arrêtée ou auditionnée. Ces gestes sont devenus une banalité dans les commissariats, même pour des personnes en audition libre, ou des mineurs d'ailleurs. Cela explique les chiffres faramineux de 9 millions de photos dans le TAJ. 9 millions de photos qui servent maintenant à la reconnaissance faciale et 6,5 millions d'empreintes dans le FAED. L'article 55.1 du Code de procédure pénale est fréquemment utilisé pour mettre la pression sur les personnes qui s'exposent à des sanctions et des gardes à vue, parce que c'est ça aussi. Si vous refusez, vous vous retrouvez en garde à vue si elles refusent. Rappelons également que depuis 2022, on en avait déjà parlé, la prise d'empreinte peut être faite de force. Ouais. Si quelqu'un refuse, on peut l'obliger à le faire.
C'est ça, on te prend la main. Ouais, complètement. Et c'est assez flippant parce que moi, ça m'est déjà arrivé au cours d'un contrôle d'identité de refuser de donner mon identité. Et du coup, tu as le flic qui te prend en photo et qui peut tout de suite comparer. Tu parles de 9 millions de portraits. Alors, on va vous annoncer parce qu'on est un peu pris par le temps. Du coup,
on y reviendra de toute façon.
Alors, la semaine prochaine, on aura un entretien avec une journaliste. On vous diffusera un entretien avec une journaliste qui a travaillé justement sur ce logiciel NEO. Est relatif à ce que tu as décrit.
Oui.
Surtout, alors bon, on le sait toujours, hein, la technologie c'est pas pour nous, hein, c'est pour les patrons et pour l'État. Mais surtout, ce qui est aussi très flippant, c'est que ça se transmette dans les pratiques et qu'on a aujourd'hui des forces de l'ordre, bourgeois et capitalistes, qui sont en train d'assimiler des pratiques de reconnaissance faciale et qui sont en train de les intégrer dans leur culture policière. Et ça, ça devient vraiment très flippant.
Les ouvriers coûtent de l'argent au patron.
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Engagé pour l'éducation populaire.
Close out with my man DJ Rock Raider of the legendary X.